Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot animée par l'équipe des films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions déjà diffusées sur cette antenne sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog, culture-prohibée.blogspot.fr. Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée à un de nos héros de comics préférés qui, en cette année 2019, fête ses 80 ans. Et oui, ne les fait absolument pas. Je veux bien sûr parler de Batman, le fameux Batman. Le détective Batman aux méthodes parfois, comment dire, peu recommandables, mais nous allons revenir sur le personnage en détail. Vous pourrez écouter également quelques dessinateurs qui travaillent sur le personnage de Batman. On a pu rencontrer par exemple Enrico Marini qui a signé Batman The Dark Prince Charming, donc qui est paru chez Dargo, qui est un des rares exemples de comics fait avec DC Comics, mais avec un Européen en solo sur le comics. Voilà, c'est vraiment un comics très intéressant. On en reparlera plus en détail dans l'émission, évidemment. On va aussi écouter Alvaro Martinez. Alvaro Martinez, c'est le dessinateur des Detective Comics Rebirth et aussi de la Justice League Dark, donc dans l'univers de Batman. Voilà, il se situe dans l'univers de Batman, Alvaro Martinez, et il officie avec beaucoup de talent. Nous remercions toute l'équipe des 24e rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, rendez-vous qui se sont tenus en juin 2019. Et cette équipe nous a permis de rencontrer Enrico Marini dans d'excellentes conditions. Et on tenait à remercier également l'équipe du Comic Con Paris 2019 pour notre rencontre avec Alvaro Martinez. Pour causer justicier de la nuit, je suis aujourd'hui accompagné d'un homme qui est surnommé la Bête Noire de Compiègne. Il n'est pas une chauve-souris, mais c'est quand même un archéologue animal, en quête de culture souterraine et oubliée. Je veux bien sûr parler de Damien Demey. Salut Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Lui, il est conscient, parfois il est inconscient, cela dépend de son état lycanthropique. Voilà, c'est bien sûr, je veux parler de notre loup-garou picard préféré, hein, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue Griffe, le site cultureaupoint.com, officie également dans sa propre émission sur Radio Campus Amiens, à l'écoute du cinéma. Alors on va voir s'il est à notre écoute aujourd'hui, parce que je vais bien sûr parler de Thomas Roland, mon lycanthrope préféré quand même. Hein. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien, et bien évidemment, salut à toutes.
I don't have time to say happy birthday.
Alors oui, Batman fête ses 80 ans. Alors oui, effectivement, le fameux Batman, le héros qu'on a souvent opposé à Superman, hein, puisque ce sont deux héros DC Comics qui sont créés à peu près à la même époque. Batman vient en second, hein, juste derrière Superman. Et évidemment, le héros de Bob Kane, on l'a souvent confronté au héros créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, en disant qu'en gros, le héros du peuple, c'était Superman, et le héros de la bourgeoisie, de la classe supérieure, c'était Batman, puisque Batman, rappelons-le, c'est un super-héros pas comme les autres, car il n'a pas de super-pouvoir. Par contre, il est pété de thunes. Voilà, donc c'est un grand bourgeois, un héritier, dont les parents ont été assassinés dans une sombre ruelle après avoir visionné la marque de Zorro avec Douglas Fairbanks. Et bien sûr, évidemment, par un certain Joe Chill, qui a tué ses parents. On le découvrira au fur et à mesure de la BD. Ça, c'est... Les origines de Batman ne sont pas précisées tout de suite. Il faut attendre quelques numéros, d'ailleurs, hein, pour la découvrir. Et un jour, Bruce Wayne, le jeune garçon qui a vécu ce traumatisme... eh bien, va grandir, il va s'entraîner, il va décider de devenir un justicier avec ses comptes en banque, illimités, hein, ses ressources illimitées qui viennent de Wayne Industries. Hein. Il va se construire des trucs incroyables, la Batmobile, tout ça, enfin des gadgets. Il va s'installer dans une Batcave incroyable, il va se faire des armes incroyables. Il va s'entraîner pour devenir une véritable machine à tuer. D'ailleurs, c'est ce qu'il va devenir, avec le soutien de Alfred, son majordome, mais pas n'importe quel majordome, puisque c'est un ancien des forces spéciales, en fait. Alfred, c'est pas un petit joueur, Alfred Pennyworth, voilà, il est capable lui aussi de faire la bagarre, Alfred. Et un jour, il va voir une chauve-souris rentrer par la fenêtre de sa bibliothèque, et il va se dire, c'est ça que je veux être pour faire peur aux méchants qui envahissent la ville de Gotham qui est une sorte de version encore plus noire de la ville de New York qui, rappelons-le, avant l'arrivée de Rodolphe Giuliani, a été une ville quand même où régnait une certaine délinquance. Enfin, l'image qu'on en voit dans les films comme Taxi Driver et tout n'est pas usurpée, quoi. Visiblement, c'était vraiment ça, New York. Et d'ailleurs, les gens qui connaissent New York nous le disent tous, hein, c'était une période très très compliquée, mais en même temps, c'était le New York le plus intéressant, et beaucoup regrettent ce New York. Bon, après, on va laisser aux New Yorkais le soin de trancher, voilà. En tout cas, en ce qui concerne Batman, lui, il vit donc à Gotham, et il décide de devenir le justicier, et ça donne une BD qui va devenir culte. Pourquoi ? Parce que Batman, c'est un personnage sombre, particulier, torturé. C'est souvent dit dans la BD, en fait, dans quelques épisodes assez cultes, hein, on peut le voir par exemple dans Enfer blanc de Jim Starlin et Bernie Wrightson, ou The Cult dans la version originale, qui est un peu fou, quoi, en fait. Il est un peu schizophrène, quoi, un peu beaucoup, quoi, et il est un peu dingue. Et ça, c'est quelque chose qui revient aussi dans le Dark Knight de Frank Miller, mais on va un peu plus développer. Moi, je voulais juste revenir un peu sur les origines du personnage, parce qu'il y a quelque chose quand même qui est assez intéressant vis-à-vis de Batman. Batman, donc, qui apparaît pour la première fois dans le comics book Detective Comics, pardon, numéro 27, donc en 1939. La couverture indique mai 1939, mais en fait, c'est le 30 mars 1939 que c'est paru, sous le nom The Batman, avec un petit trait d'union entre Bat et Man. Voilà. Et... il y a quelque chose quand même qu'il faut savoir sur la création de Batman, qui est assez intéressante, c'est que aujourd'hui on ne le voit plus apparaître parce qu'il y a eu des changements, mais c'est fluctuant, parfois ça apparaît, parfois ça n'apparaît pas, mais longtemps on a juste signalé que Batman c'était une création de Bob Kane, et ça c'est ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait c'est pas vraiment le cas. Par exemple, Bill Finger, qui est vraiment le co-créateur de Batman avec Bob Kane a eu l'idée du nom. Mais il a blindé, en fait, avec ses avocats, ses conseils, blindé son contrat pour qu'il ne lui arrive pas les mésaventures de Jerry Siegel et Joe Shuster, dont on sait qu'eux, ils ont cédé tous leurs droits de leur personnage, ils ont été quasiment ruinés, ils vivaient dans la misère, et c'est quand le film de Richard Donner est sorti qu'il y a eu un mouvement pour les réhabiliter, mais ils étaient devenus des miséreux, quoi. Voilà, après avoir créé l'une des franchises de BD les plus rentables de toute l'histoire de la BD. Bob Kane n'a pas eu ce souci, lui, il a fait un contrat béton, mais en fait, il n'a pas fait grand-chose, il n'a pas beaucoup dessiné dans Batman. D'ailleurs, son contrat prévoyait qu'il dessine quelques planches de temps en temps quand même, parce qu'il n'en dessinait pas du tout. Et en fait, c'est plutôt Bill Finger qui a eu l'idée de la forme de Batman, hein, parce que Bill Finger déclare, lui, en interview, Kane avait une idée pour un personnage nommé Batman. Il souhaitait me montrer les dessins. Il dessinait un personnage qui ressemblait très fort à Superman, avec des espèces de collants rouges, je crois, avec des bottes, sans gants, sans gantelets, avec un petit masque loup. Il avait deux ailes rigides qui dépassaient, ressemblant à des ailes de chauve-souris. Et en dessous, il y avait un signe Batman. Et en fait, c'est Bill Finger qui va créer tout le visuel. Il va dire, c'est pas bon. Si on fait une chauve-souris, il faut qu'elle ait une autre tronche. Et qui va développer un peu plus le personnage. Alors, il y a Bill Finger. Il y en a d'autres aussi hein, qui vont développer le personnage. Par exemple, Jerry Robinson, qui assiste Bob Kane, va, pour le visuel de la BD, s'inspirer, parce qu'il était assez fan du cinéma expressionniste allemand. Il va s'inspirer du cinéma expressionniste allemand pour décrire l'univers dans lequel évolue Batman, cet univers très sombre. Batman qui, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros au début de la BD, n'hésite pas à tuer ses ennemis. Et c'est quelque chose qui va disparaître petit à petit. On va un peu édulcorer le personnage avec le temps. Et Batman, c'est quand même aussi, ce qui est très intéressant, c'est que Batman, c'est un concentré en fait de plein de personnages existants. Donc il y a le signe de Zorro, hein, la marque de Zorro, le signe de Zorro qui avec Douglas Fairbanks, qui fait partie des grosses influences. Il y a Dick Tracy, il y a le Spirit de Will Eisner, il y a Sherlock Holmes, il y a Léonard de Vinci parce qu'il avait inventé une machine volante avec des ailes de chauve-souris. Tous ces éléments-là, agglomérés en fait, ont servi à créer le personnage de Batman, et en particulier un film dont on a déjà parlé dans l'émission il y a de nombreuses saisons, qui s'appelle The Bat Whispers, qui est un film de 1930. Et tout cela a contribué à créer Batman tel qu'on le connaît. Et puis Batman, ben, maintenant, depuis 80 ans, a connu diverses fortunes. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un personnage vraiment culte qui est resté parmi les... En plus, les personnages les mieux servis, je trouve, en termes de qualité de scénario, que ce soit les arcs de Grant Morrison, tout ça. Enfin, tout ce qu'a connu Batman, les plus grands sont tous passés par, ont tous traité le personnage de Batman. Vous écoutez Culture Prohibée. Et dans les récentes BD qui ont mis en scène Batman, il y a une BD qui est signée d'un certain Enrico Marini, mon cher Damien.
Oui, en effet. J'ai eu l'occasion de rencontrer Enrico Marini au Festival de la BD d'Amiens, qui est l'événement culturel, un des événements culturels des Hauts-de-France, ou comme je préfère dire, de la Terre du Nord. On a eu un super accueil, on a pu discuter avec lui, c'était très agréable, notamment sur Batman et l'entièreté de son travail, car Enrico Marini a eu cette chance formidable de pouvoir, à travers Dargo et DC, créer la toute première BD Batman. C'est-à-dire que les comics sont un certain format, mais là, l'objectif, c'était vraiment de fournir un format plus bande dessinée européenne, ce que Marini a réussi à faire de manière formidable. Enrico Marini, qui est l'auteur formidable donc, de la première BD Batman, The Dark Prince Charming, qui nous raconte l'histoire de Batman et de Joker qui s'affrontent pour la énième fois. Et au cours de cette cette histoire, le Joker veut à tout prix offrir un cadeau exceptionnel à Harley Quinn, sauf que pour ça, il n'arrive plus à cambrioler vu que Batman intervient à chaque fois. Il va décider de finalement trouver de l'argent pour pouvoir acheter ce cadeau. Et ça tombe bien parce que les informations parlent justement en ce moment de la soi-disant fille cachée de Bruce Wayne. Et le Joker se dit, il y a un coup à tenter. Du coup, il va s'en prendre à cette fille dont on ignore si elle est vraiment la fille de Bruce Wayne ou pas, ce qui va rendre fou Batman et qui va tout faire pour tenter de la retrouver. Et ce qui est dingue avec Enrico Marini, c'est qu'il a un style très particulier, vraiment marqué, proche du cinéma, et ça se ressent dans cette BD qui se rapproche à l'essence finalement du film noir, mais le meilleur pour en parler au final, c'est Enrico lui-même.
Nous allons de suite écouter Enrico Marini au micro de Culture Prohibée.
J'utilise pas mal en fait l'ocre ou la l'orange ou les couleurs chaudes justement bien sûr pour alterner, mais c'est souvent un peu comme au cinéma quand on a une pièce éclairée par des bougies ou des lumières ou par un feu c'est un éclairage naturel donc et puis j'essaye en fait la couleur, d'adapter la couleur en fonction de l'atmosphère de ce que je raconte, de l'atmosphère de la scène, et essayer aussi de guider un petit peu le lecteur avec la couleur en fait, aussi pour changer entre scènes. Je change souvent de couleur, j'essaye si possible de varier un petit peu avec ça, mais souvent avec des tons assez monochromes parce que j'aime pas trop quand il y a trop de couleurs différentes dans la même image. Ça crée une illisibilité de l'image et on s'y perd facilement, donc la couleur c'est un support en fait pour la lecture. Ouais.
Moi j'avais une question là. Vous étiez déjà co-scénariste sur le Scorpion, et là vous êtes vraiment scénariste et dessinateur sur Batman. Ouais. Dans le processus de création, est-ce qu'on écrit le scénario et après le dessin va s'adapter au scénario qu'on a écrit, ou est-ce que déjà on a une idée du dessin qui va peut-être guider l'histoire, le scénario? C'est-à-dire comment ça marche dans ce processus-là, parce que c'est pas évident d'écrire, enfin quand on a les deux postes comme ça.
Ouais. Oui, enfin comme je le fais aussi sur Les Aigles de Rome, hein, là j'écris avant tout le scénario d'abord. Toujours. En fait, je l'écris comme si c'était en fait pour quelqu'un d'autre. Non, a priori, je l'écris bien sûr pour moi, mais je l'écris complet. Je fais un script complet avec description et dialogue. Peut-être un peu moins descriptif parce que je sais à peu près ce que je veux faire, donc j'ai pas mal de choses aussi en tête. Mais il faut que je puisse le présenter aussi à l'éditeur, qu'il puisse me donner un retour. Et c'est ensuite en fait que je commence les planches et que d'abord le storyboard une fois que le scénario a été accepté par l'éditeur et que moi je suis content et tout. Après quand on est sur la planche, on peut toujours changer et modifier certaines choses, mais c'est bien d'avoir une bonne base qui est solide. J'en ai besoin aussi pour être plus efficace et ne pas perdre trop de temps et pouvoir me concentrer vraiment sur le dessin une fois que le scénario est écrit, quoi. J'aime bien les deux phases d'ailleurs, oui. L'écriture et le dessin. Mais bon, après, une fois que je commence, bien sûr, je change des dialogues, j'incruste de nouvelles petites scènes, ça c'est possible, ou je vire des choses parce que finalement au dessin ça fonctionne pas, voilà. Mais je suis plus à l'aise une fois que j'ai le scénario à 95% et fini, quoi.
Down through the gates, watch the night suffocate all the light as it smothers the sun. I can tell by the moon you'll be joining me soon as a guest in my fortress of fun.
And I can't wait to see you and once again free you, release from your humorless air. Someday I will replace that big frown on your face with a smile and a murderous glare. We are two of a kind, violent, unsound of mind. You're the yin to my yang, can't you see? And if I were to leave, you would crumble in grief. Face it, bats, you'd be lost without me. You'd be lost, you'd be lost. Face it, bats, you'd be lost without me. I'm just trying to show you just how well I know you. I understand just how you feel. To your reason, no way, 'cause you had one bad day and your mind let go of the wheel. Still we're fated to battle, you pout and I prattle. Don't you ever tire of this game. But you'll not make it end, 'cause I'm your only friend. We are opposites, but we're the same. We are two of a kind, violent, unsound of mind. You're the yin to my yang, can't you see? And if I were to leave, you would crumble in grief. Face it, bats, you'd be lost without me. You'd be lost, you'd be lost. Face it, bats, you'd be lost without me. We have so many wonderful stories. I have studied the mind of this bat. A hero with no praise or glory, just his cape and his cave and his meow. We are two of a kind, violent and sound of mind. You're the yin to my yang, can't you see? And if I were to leave, you would crumble and
Vous écoutez Enrico Marini, scénariste et dessinateur de Batman The Dark Prince Charming, paru chez Darbo, au micro de Culture Prodigy.
On connaît toutes les icônes de Batman et Archie arrive là. Il a été inspiré de quoi, Archie ?
En fait, on m'a demandé de... Enfin, c'est pas qu'on m'a demandé, on m'a dit, si tu veux, tu peux créer des nouveaux personnages de méchants. De super méchants, enfin, ou qui seront intégrés après dans l'univers de DC. Sauf que, moi je dis, ah chouette, mais sauf que j'avais déjà pratiquement écrit tout le scénario en fait. Et Archie, il n'avait pas encore ce rôle-là, quoi. Pas complètement, voilà. Et c'est par la suite que je me suis dit, je ne peux pas là maintenant inventer un nouveau personnage de méchant parce qu'il va complètement bouleverser l'histoire et ça aurait été du n'importe quoi. Et finalement je me suis dit ça serait drôle de un petit peu développer ce personnage et c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée de le rendre suicidaire et dépressif Voilà, c'est en fait j'ai pensé un petit peu au personnage de Droopy, le petit chien qui est vraiment jamais content et le Droopy, le cartoon là des années, c'était quoi, des années 30, 40, enfin 40, ouais ou 50, ça me faisait rire. Et donc j'ai pensé un peu à lui et j'ai pensé que c'était sympa d'avoir un personnage, un sidekick, un faire-valoir pour le Joker, qui est vraiment à l'opposé, quoi. Un type qui n'a pas vraiment envie de se foutre en un costume de clown, mais obligé par son patron. Et puis finalement, il a envie de rien et il se laisse faire. Et puis voilà. Donc, je l'aime beaucoup et visiblement, il a l'air de plaire. Il a un petit rôle. Hein. Bon, il a un petit rôle parce qu'il est petit aussi.
L'une de vos histoires de Batman préférées, qu'importe le média, que ce soit un épisode de dessin animé ou un comics en particulier.
Bah, moi, une des histoires que vraiment j'adore, c'est l'année 1 de Miller et Mazzucchelli. J'aime le scénario et j'aime le dessin. Donc c'est certainement une histoire qui m'a marqué. Après, il y en a plein des années 70-80, illustrées par Jim Aparo, Dick Giordano, écrit par O'Neill, donc ou dessiné par Kevin Nolan, mais qui sont un peu oubliés aujourd'hui, donc c'est un peu dommage, mais c'est les histoires qui m'ont un peu marqué. Mais c'est sûr que ouais, cette histoire-là elle était très chouette. Le Killing Joke aussi, bien sûr, de Alan Moore. Et surtout, une histoire qui m'a pas mal influencé, même pour la mienne, même si j'ai raconté autre chose, mais c'est Mad Love de Bruce Timm, et le dessinateur Bruce Timm est écrit par Paul Dini. Donc, c'est eux qui ont inventé le personnage de Harley Quinn. Et il y en a tellement de versions maintenant dans le monde entier, mais j'adore leur version, la version originale, et surtout cette histoire folle. Il me semble qu'en français c'est Folle d'amour, un truc. C'est ça le titre, non ?
Ils l'ont pas traduit en français.
Ils l'ont pas traduit, donc c'est toujours Mad Love. Et moi j'adore l'histoire, elle est très rigolote et en même temps très dramatique. Et j'ai essayé de garder un petit peu cet esprit pour la Harley Quinn que j'ai introduit dans cette histoire. Donc, et aussi, enfin, le côté coquine, rigolote, folle, aussi faire valoir aussi pour le Joker, mais en même temps aussi un peu le moteur de cette histoire, malgré tout, parce que tout le bordel qui arrive dans cette histoire, c'est un peu à cause d'elle. Donc, voilà, quoi.
Mais oui, justement, il y a cette fameuse scène avec les sushis qui sont servis sur Harley Quinn, qui sort aussi du lot là-dessus. Parce que c'est la première fois que je vois une Harley Quinn aussi comme ça. Des fois, assez coquine, très capricieuse aussi.
Oui, capricieuse, ouais. Ouais, elle était marrante à faire, cette scène. Et d'ailleurs, j'avais peur que DC Comics ne me laisse pas passer cette scène, puisqu'on la voit presque nue, quoi. Enfin, elle est pas, on la voit pas nue parce qu'on devine, mais elle est couverte de sushi, mais c'est marrant, c'était vraiment marrant à faire. Et puis
en même temps, si je peux me permettre, c'est formidable parce que vous avez un grand talent pour dessiner les femmes. Donc Harley Quinn a bénéficié comme ça de votre fascination, je pense, pour la gente féminine dans les dessins, et qui se retrouve encore dans Harley Quinn. Donc merci.
Ah bah merci.
Après cet échange avec Enrico Marini, moi j'ai envie de vous demander, les amis, parce que c'est quand même passionnant ce qu'il nous a raconté, Enrico Marini, j'ai envie de vous demander, les amis, qu'est-ce qui représente pour vous Batman, Thomas ? C'est quoi Batman pour toi ? Puis peut-être qu'il y a une BD de Batman que tu portes plus dans ton cœur. Voilà, je sais que tu es très fan de Batman, Thomas.
Je suis très fan de Batman, mais en même temps, je ne lis pas des BD Batman tous les jours non plus, hein, parce que l'actualité Batman est quand même très riche. Et à moins d'être Bruce Wayne, on ne peut pas s'acheter toutes les BD Batman qui sortent. Hein. Une BD Batman que j'aime bien, je ne vais pas être original, hein, ce sont celles que j'ai découvertes dans les années 90, c'est-à-dire à l'époque où le personnage reprenait un peu, retrouvait un renouveau sous une plume plutôt sombre, hein. C'était plutôt les plumes d'Alan Moore ou de Frank Miller. D'ailleurs, je crois que c'est des BD qui sont un peu plus vieilles que les années 90, hein. Surtout Sourier, je crois que Sourier est plus vieille, hein. Mais c'est l'époque où moi je les ai découvertes, en fait. C'est à l'époque de la sortie du film de Tim Burton, Batman, hein, avec Jack Nicholson. Pour moi, Batman, c'est un gros malade, hein. C'est un gros malade qui se déguise et puis qui veut faire justice lui-même dans les rues de Gotham. C'est ce qui me plaît dans ce personnage, c'est que c'est un personnage torturé. Ce qui me plaît aussi, c'est que le personnage a évolué et il ne tue pas ses ennemis, il n'est pas juge, juré, exécuteur. C'est ce qui m'intéresse aussi chez lui. Cette façon de rendre la justice, mais sans forcément être un Dirty Harry en cape noire, quoi. Oui, donc pour moi, c'est surtout un grand malade et c'est un personnage, c'est le genre de personnage que j'aime bien voir au cinéma ou dans, en littérature, en BD, les personnages torturés qui ont des dilemmes qui évoluent dans un univers très sombre, dans des rues sombres, sordides. Moi, c'est ce que j'aime, quoi. C'est ce que j'apprécie. Et donc, je pense, quitte à choisir une BD là comme ça, bon, je vais choisir Souriez parce que Souriez, je pense que c'est l'une des BD qui met bien en évidence la folie du personnage qui est mise en parallèle avec la folie du Joker, hein, une grande BD d'Alan Moore et Brian Bolland, hein. Je pense que c'est celle que je vais choisir. Bon, on peut hésiter avec Dark Knight, hein, qui est une grande BD aussi. Bon, je ne fais pas dans l'original, hein, mais Souriez, c'est quand même une... je pense que c'est l'une des BD les plus emblématiques du personnage, tout du moins du renouveau du personnage. Et puis Alan Moore, c'est quand même un grand écrivain de BD qui sait donner du corps à ses personnages et à les rendre beaucoup plus complexes qu'ils ne peuvent le paraître.
When the world is full of care and every headline screams despair, when all is great, starvation, war and life is vile, then there's a certain thing I do, which I shall pass along to you, that's always guaranteed to make me smile. Yes! I go gloomy as a light bulb battered bug, simply loomy, sometimes fold and chew the rug. Mr. Life is swell in a padded cell. It'll chase those years away. You can trade your gloom for a rubber room and injections twice a day. Just go loony like an acid casualty, or a loony or a preacher on TV. When the human race wears an anxious face, when the bomb hangs overhead, when your kid turns blue, it won't worry you.
Vous écoutez Culture Prohibée spécial Batman.
Then you just don't give a fig. Man so cute, and the universe so big. If you hurt inside, get certified. And if life should treat you bad, don't get even, get mad. Yes.
Et toi, Damien, Batman, pour toi, qu'est-ce qu'il représente? Et puis, pareil, un peu, quel BD de Batman t'a profondément marqué?
Alors, pour moi, Batman, c'est surtout son côté symbole de, finalement, l'homme un peu idéal, celui qui peut tout surpasser grâce à son intelligence, grâce aux autres, grâce au soutien et tout. C'est vraiment une icône. Et ce côté, justement, symbole idéal qui surpasse tout. Vous savez que j'adore vraiment les récits où il est vraiment au fond du trou, où il s'est fait briser par n'importe quel méchant et que finalement, il arrive à s'en relever et à revenir. C'est un peu cliché, mais ça donne toujours... c'est un sentiment, au final, que je cherche quand je lis Batman et c'est le sentiment que je préfère. Et de manière très étrange, mon histoire préférée de Batman n'est pas avec Bruce Wayne, mais avec Dick Grayson, donc le premier Robin qui le récupère après la mort de ses parents. Et cette histoire, c'est Sombre Reflet de Scott Snyder, écrit avec dessiné par Jocks en 2011, qui raconte l'histoire justement de Batman qui est parti un peu, pas en vacances, mais qui n'est plus actuellement à Gotham et qui décide de confier finalement son costume à Dick Grayson pour prendre sa relève. Et c'est intéressant parce que Dick Grayson est donc le premier Robin. Enfant, il rêve que d'une chose, c'est de reprendre le costume de Batman, ce qui donne, à travers des BD, de super discussions. Par exemple, la première fois où Robin voit la Justice League, il demande à Batman « Est-ce qu'un jour je ferai partie de la Justice League ?» Ce à quoi Batman lui répond « Non, tu la dirigeras. » C'est des moments que j'adore Dick Grayson. Et du coup, Dick se retrouve à porter le costume, après qu'il ait eu son développement en Nightwing, donc il s'est opposé à Batman, qu'il voyait toujours comme un enfant, lui qui avait grandi et qui espérait beaucoup plus. Et en devenant Nightwing, ce que Dick Grayson ne voulait absolument pas, c'est finir comme Batman, et finalement il se retrouve obligé à obligé de revenir à Gotham et de porter le costume. Il y a quelque chose de très intéressant que j'avais vu lors d'un interview il y a très longtemps, peut-être de Bruce Timm ou de Loeb, qui parlait justement du fait que Batman et Superman sont souvent opposés, alors que pour lui, la perfection entre les deux personnages, c'est que ce sont finalement les faces de deux pièces différentes. Donc ils sont en lien et en même temps, ils se font dos. Et le personnage qui incarne au mieux le lien entre les deux personnages n'est autre que Dick Grayson, qui finalement a toutes les techniques de Batman, mais devient Nightwing, donc le héros typique de Krypton, et porte en lui tout l'espoir de Superman. D'ailleurs, dans les dernières BD récentes, un Superman d'un autre univers se pointe sur Terre. Il se retrouve face à Dick et il lui dit que malgré tous les multivers qui existent, Dick Grayson est toujours le même à travers les multivers et à travers le temps, ce qui fait de Dick Grayson la constante universelle. Et pour en revenir donc à Sombre Reflet, Sombre Reflet raconte l'histoire de Dick Grayson qui endosse le costume de Batman et qui se retrouve à tenter d'arrêter un trafic de différents objets. Par exemple, il y a le sérum de Killer Croc qui est diffusé et qui transforme les gens en bêtes affreuses, ou notamment à un moment où Dick Grayson se retrouve dans une vente d'armes criminelles justement de Gotham qui font la plus grande renommée des criminels et se retrouve avec un pied de biche encore couvert du sang de Jason Todd, le deuxième Robin qui s'est fait tuer par le Joker. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant et c'est un comics qui diffuse l'idée que ce que dira Zack Snyder plus tard, que le plus grand méchant qui existe dans les comics Batman, ce n'est rien d'autre que Gotham. Pourquoi ? Parce que Sombre Reflet inscrit l'idée que qu'importe vos valeurs, qu'importe à quel point vous êtes fort, tenace, qu'importe jusqu'où vous pouvez aller, si vous voulez savoir qui sera votre reflet, votre rival ou la personne la plus dure à abattre, Gotham vous la présentera quoi qu'il arrive.
C'est vrai, Damien, que Jeff Loeb aussi, on ne l'a pas cité depuis le début, tu l'as cité rapidement, mais a aussi contribué à la légende Batman. Son long Halloween est fantastique. Enfin bon, voilà. Et puis la rencontre, en fin de compte, Frank Miller aussi, enfin avec quelques autres, il a finalisé cette rencontre Batman-Superman dans son dernier Dark Knight, hein, voilà, où on voit bien les deux personnages cohabiter, alors avec d'autres choses. Un discours sur la filiation, tout ça, enfin, il y a plein de choses intéressantes. Un côté tragédie grecque, un peu, voilà, même si c'est pas le Dark Knight le plus abouti, c'est quand même très intéressant. Batman, pour moi, c'est vraiment un personnage à part. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, d'abord, parce que souvent, les BD de Batman sont très cinématographiques. Tu l'as rappelé concernant le travail d'Enrico Marini, mais souvent, elles sont très cinématographiques. Et puis, surtout, pour moi, Batman, c'est la rencontre de deux choses que j'admire profondément. C'est la rencontre du film noir et du cinéma d'horreur, quoi. Voilà. Alors, le personnage de Batman, je ne vais pas reprendre ce que vous avez dit, grand malade et tout. On préfère tous les personnages, de toute façon, torturés aux personnages lisses. On s'emmerde un peu avec les personnages lisses, quoi, quand même. Hein. Mais je trouve que c'est ça que j'aime chez Batman, c'est-à-dire cette rencontre entre vraiment le film noir, hein, très classique, et l'univers du film d'horreur, parce qu'il y a quand même des BD de Batman qui sont particulièrement horrifiques, hein, dans ce qu'elles racontent, dans ce qu'elles mettent en scène. Tu parlais de Sourier, de Killing Joke, quand même, qui est quand même une BD très, très, très violente, y compris dans ce qu'elle raconte humainement et puis dans ce qu'elle montre. Écoutez Culture Prohibée spécial Batman. Sinon, moi, comme BD de Batman, j'ai choisi une BD qui,
qui me tient particulièrement à cœur, une BD de Frank Miller, mais je n'ai pas choisi le Dark Knight. J'ai choisi une BD que j'aime vraiment beaucoup, 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 qui est Batman Year One, Batman année 1, que donc j'avais acheté à l'époque. Comme Thomas, moi j'ai surtout lu ces BD quand elles sont parues aux éditions, chez Glénat, aux éditions USA Comics. Donc oui, j'ai les éditions originales à la maison, dans ma petite collection, voilà, les premières parutions françaises. Et en deux albums étaient parus donc Batman année 1, qui est une BD qui est signée de Frank Miller, mais aussi de David Mazzucchelli, qu'il avait rencontré sur Daredevil, qui est dessinateur qui avait été très décrié à l'époque, et puis qui petit à petit a affiné son style. C'est fascinant, on le voit affiner son style. D'ailleurs, il fera un arc incroyable de Daredevil Renaissance, hein, où Daredevil est mis au fond du trou, un peu comme ce que tu disais, Damien, concernant Batman. Il est au fond du trou, il perd tout, il perd même son droit d'exercer son métier d'avocat, il est rayé du barreau, tout ça, et puis il remonte la pente et il revient s'occuper de son pire ennemi, le Caïd. Bon, là, Batman, ce Batman de Frank Miller et David Mazzucchelli raconte pas une descente au fond du trou, mais graphiquement déjà il a quelque chose de particulier, parce que c'est le moment où Mazzucchelli change de style, et Mazzucchelli va devenir, en fait, va faire très peu de BD dans les années suivantes, parce qu'il va devenir un artiste, un plasticien très renommé mondialement. Et puis Frank Miller, avec ce Batman année 1, revient aux origines de Batman, et en fin de compte suit une trame, je trouve, assez classique, et de film noir. Et on redécouvre, on a en parallèle, en fait, l'arrivée de Jim Gordon dans la ville de Gotham, qui prend son service et qui va devoir lutter contre une police corrompue. Il y a deux intrigues qui se mélangent. L'intrigue où Gordon lutte contre la police corrompue est géniale et donne lieu à quelques scènes superbes, hein, dans la BD, où il se fait passer à tabac par ses collègues, tout ça. Enfin, il y a des scènes assez incroyables. Et en même temps, il tombe amoureux d'une femme fatale ça va mettre en péril son couple. Enfin, voilà, c'est très intéressant. Et puis, c'est un Gotham très urbain aussi, qui rappelle vraiment les films les plus glauques sur New York, qui rappelle un peu le Maniaque de Lustig, qui rappelle un peu tous ces films un peu sale, quoi, sur New York. Et puis Frank Miller aussi nous raconte les débuts de Batman, quoi. On le voit au début essayer de faire le justicier un peu à la manière d'un Charles Bronson, aller juste avec une écharpe pour masquer son visage, faire justice lui-même, se louper un peu, rencontrer celle qui deviendra Catwoman aussi, sans le savoir, puisqu'à l'époque elle n'est pas encore Catwoman. Il pose les bases de tout l'univers de Batman comme ça dans cette BD, que je trouve sublime, et je sais qu'elle a été republiée de nombreuses fois, et donc que je vous invite à vous procurer. Alors, au niveau Batman, donc Thomas l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un super-héros qui connaît une activité de parution quasiment non-stop. Les versions en noir et blanc, le Batman noir, les séries qui tournent autour avec la Justice League, avec Detective Comics Rebirth par exemple. Et donc Detective Comics Rebirth, toi Damien, tu as pu rencontrer l'un de ses auteurs lors du Comic Con Paris 2019, qui est Alvaro Martinez.
Tout à fait, le Comic Con m'a gentiment invité pour finalement suivre cet événement culturel de dingue, cette messe culturelle qui a lieu tous les ans depuis quelques années. Et avec les 80 ans de Batman, il y avait beaucoup d'auteurs justement qui ont travaillé sur lui, qui étaient présents. Alors Alvaro Martinez est actuellement dessinateur de la série Detective Comics Rebirth. Donc les Detective Comics, si vous savez, c'est les tout premiers comics dans lesquels est apparu Batman, et avec le temps deux titres sont apparus, Batman et Detective Comics, qui a poursuivi sa lancée. Et du coup, Detective Comics Rebirth se passe, est la dernière collection lancée par DC Comics. Et dans Detective Comics Rebirth, nous voyons quelque chose qui est vraiment intéressant, vu que ça crée vraiment un écart entre les Batman et les Detective Comics, qui est que les Batman restent centrés au final vraiment sur Batman, là où les Detective Comics vont, dans l'arc Rebirth, finalement inviter plusieurs personnages pour nous mettre plus en avant la Bat-Family. Donc qu'est-ce que racontent les comics? Eh bien, cela nous raconte l'histoire de Batman qui décide de changer sa façon de faire. Lui, qui a toujours dit qu'il travaillait en solo, même s'il était accompagné de quelques Robins, décide de monter un groupe à son effigie qui permette d'intervenir à travers tout Gotham dans les moments où justement il est pris par la Justice League. Il va se former à ce moment-là un petit groupe de la Bat-Family dans lequel on va retrouver Batwoman, Red Robin ou encore Gueule d'Argile, que Batman va inviter à rejoindre le groupe pour finalement continuer sa rédemption. Et cette équipe qui est là pour intervenir va finalement être vue de moins en moins bien, de manière dépressive, par non seulement les méchants qui logiquement se font rétamer encore plus facilement qu'avant, mais qui du coup ont à peine fini de prévoir leur plan qui se font arrêter. Et cela va donner naissance à une idée assez particulière qui est non plus une Bat-Family pour rendre la justice, mais une Bat-Army pour littéralement faire une guerre. Et c'est une idée très intéressante, car cette petite idée de Bat-Army va se dérouler à travers plusieurs autres comics où Batman commence à enrôler des méchants, commence à organiser des groupes d'intervention pour se diriger vers un événement dont je ne vous dirai point la conclusion. Donc Alvaro est un auteur qui arrive à rendre des moments de tension génial, vu qu'il faut réussir à faire cohabiter plusieurs membres de la Bat-Family et plusieurs membres qui ont une conception différente de comment on rend la justice. Alvaro Martinez arrive à travers ses dessins à nous rendre compte finalement de la différente conception de la justice des multiples personnages présents, mettant des scènes qui déchirent l'intérieur même du groupe et d'autres qui les réunissent de manière brillante. Mais je pense que le meilleur pour en parler n'est autre que lui.
Est-ce votre première fois au Comic-Con de Paris ? Oui, ce n'est pas ma première fois à Paris, mais c'est ma première fois au Comic-Con. Et pour l'instant, c'est cool, amusant, tranquille. C'est vraiment cool, un peu stressant car il y a beaucoup de monde. Et je pense que demain, il y en aura encore plus. Mais j'apprécie énormément chaque minute de tout cela. Vous faites un excellent travail sur le Batverse actuellement, dans les pages de Detective Comics. Pouvez-vous nous parler de la façon dont vous travaillez ?
The way you work,
et comment vous vous sentez de dessiner les aventures de Batman?
For me, it was like a mix between a great honor and a.
Pour moi, c'était un mélange entre un grand honneur et beaucoup de peur et de souffrance, parce que pour dessiner Batman, vous devez faire le meilleur travail que vous pouvez. Donc pour moi, c'est très stressant. Mais d'une façon, c'est aussi la plus gratifiante des expériences que j'ai eues comme artiste, de dessiner Batman et tout le Batverse. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire chez les super-héros. C'est toujours le meilleur. Est-ce que vous avez un héros que vous préférez dans la Bat-Family ? Parce que dans les Detective Comics, il y a beaucoup de membres du Batverse, donc est-ce que vous préférez en dessiner un en particulier ? Lequel parmi les personnages je préfère ? J'aime dessiner Batwoman, beaucoup, et je trouve Cassandra Cain très fun à faire également. Batman lui-même et Alfred. Alfred est très fun à dessiner, difficile mais fun. C'est un de mes préférés.
You talk about Alfred. Did you
vous parlez d'Alfred. Avez-vous vu l'adaptation en série Pennyworth of,
Pennyworth?
Non, un comic ou une série? Une série.
Ah, no.
Non, je ne l'ai pas encore vue.
Yeah.
Elle est bonne?
Is it good?
Ça dépend de votre point de vue. Alors, je dois la voir. Vous avez dit que vous aimiez dessiner Batwoman et Cassandra Cain. D'une certaine façon, vous aimez dessiner les femmes du Batverse.
Female of the Batverse.
Vous me demandez si je préfère dessiner les personnages féminins ou masculins ? Je préfère les femmes, car je me trouve plus à l'aise pour les dessiner. J'ignore pourquoi. C'est ainsi. C'est un mystère. C'est un mystère. Peut-être c'est parce que j'aime les femmes. Je comprends. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Batman dans votre enfance ? Oui, c'était le film de Tim Burton. Parce que de là d'où je viens, ce n'était pas facile d'acheter des comics. Parce que je viens d'un petit village tout petit, et tu pouvais trouver des Marvel, mais pas des DC. Ce qui était bizarre dans les années 80, quand j'étais enfant. Et je n'étais pas un fan de Batman, mais quand le film est sorti, comme n'importe quel autre enfant, on a été épaté. Et je me souviens d'avoir eu le comic du film, être allé au cinéma deux fois et avoir eu toutes sortes d'objets, de t-shirts, tout. Donc c'est à ce moment que je suis devenu un fan de Batman.
Thank you.
Vous écoutez Alvaro Martinez, dessinateur de Detective Comics Rebirth, au micro de Culture Brune.
Actuellement en France, au niveau des sorties de comics, nous en sommes juste après la mort de Gueule d'Argile. Et pour moi, c'est un instant incroyable. Cette confrontation entre Batwoman et Cassandra Cain est incroyablement dingue. Quel sentiment cela donne de dessiner, d'incarner une telle intensité, un tel instant. Ce à quoi vous faites référence se situe juste avant le procès de Batwoman, lorsque tout le monde se réunit. Est-ce sorti en France ? Oui, depuis la semaine dernière. La Bat-Family se réunit autour d'une table et décide du destin de Batwoman. Après ce qui est arrivé à Gueule d'Argile, ils doivent décider ce qu'ils vont faire d'elle. C'était un moment intense. C'est très dur à dessiner car les gens sont assis autour d'une table pour discuter. Donc c'est plutôt compliqué de refléter les émotions qu'ils ont. Certains d'entre eux pensent que Batwoman a fait le bon choix, alors que d'autres non. Et c'est une dispute entre eux. C'était un chapitre émotionnel, surtout pour Cassandra. Allez le lire.
Go read it.
It's my next,
c'est ma prochaine lecture.
Any future des futurs projets avec DC ou other,
Pour le moment, j'ai un contrat d'exclusivité avec DC. Il me reste 2 ans à faire des comics pour eux. Pour l'instant, je travaille sur Justice League Dark et qui sait, je ne peux pas le dire.
About Justice League Dark.
Peut-être une autre question à propos de la Justice League Dark. Ça fait quelques années que l'on parle d'une adaptation, mais pour l'instant, il n'y a rien. Je suppose que vous n'en avez aucune idée, mais si vous aviez à choisir une histoire de Justice League Dark à transposer au cinéma, laquelle ce serait ? J'adorerais voir les personnages créés pour la série sur grand écran. Donc pour moi, le rêve, ce serait l'adaptation de notre première histoire. Dans notre série, le vilain principal est un gars nommé le Upside Down Man, l'homme à l'envers, qui travaille avec des aliens, et il est très effrayant. Il a beaucoup de monstres avec lui, appelés les Other Kind. Et j'adorerais voir ça à l'écran. Pour moi, ce serait totalement un rêve. Ma dernière question sera, actuellement, vous avez quelques membres dans la Justice League Dark, mais voulez-vous ajouter d'autres membres de la Justice League ou des vilains à votre ligue particulière ? J'adorerais voir Deadman plus souvent dans la série, car il est parmi les personnages officieux. J'adorerais le voir comme coéquipier. Pour l'instant, je ne veux rien spoiler, mais il y a quelques personnages dans le dernier tome que j'ai fait qui rejoignent le groupe. Et j'adore les dessiner car je les ai designés. Je dirais que ce sont mes personnages.
Merci pour votre temps.
Merci à vous. C'était un plaisir.
Attendez! Vous risquez votre vie. Dites-moi au moins votre nom.
Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes.
Bruce ?
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite et les films de la Gorgone. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine!